Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors Fanny, je t'ai rencontrée, t'es une cliente Jolie Bump à la base. Voilà.
Tout à fait.
T'as un super compte Instagram qu'on mettra en lien qui s'appelle The Greenimalist sur la mode durable.
Merci.
Et voilà, et on a beaucoup échangé. Je suis trop contente qu'on puisse enfin se rencontrer et enregistrer ce podcast ensemble. Donc tu vas nous raconter ton vécu de la maternité et notamment ton vécu du postpartum.
Voilà. Oui.
Donc, est-ce que pour commencer, pour qu'on apprenne à mieux te connaître, tu peux te présenter, s'il te plaît, Fanny?
Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans.
Oui.
J'ai deux enfants, un garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Vladimir et une petite Alma de 5 mois. Donc, c'est tout frais, tout récent. Dans la vraie vie, je suis juriste et en même temps, j'ai une page dédiée à la mode éco-responsable. Et c'est dans le cadre de cette page-là que j'ai connu Jolie Bump,
ouais,
avec ses engagements et toute sa traçabilité et ses beaux modèles.
Ah, merci. Je vais commencer par la question rituelle de Nouveau Chapitre, c'est savoir comment tu as appréhendé ton désir de maternité, comment il est venu, est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ?
Alors, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants depuis que je suis petite. Je joue à la poupée comme beaucoup de mamans. Et c'est surtout, on avait tous les deux toujours eu envie d'avoir des enfants avec mon mari. Mm-hmm. On a attendu 5 ans avant, enfin 5 ans de vie commune avant de sauter le pas. Et ça s'est fait très naturellement. Et j'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite.
Trop bien. Ça, c'est super.
Ouais. À 37 ans, donc c'était pas mal.
Moi, c'est cool. Comme quoi, c'est bien, c'est important de le dire aussi. Parce
oui.
que parfois, on peut se poser des questions en fonction de l'âge. Et donc, c'est vrai que c'est...
Alors après, j'avais un lâcher-prise assez fort là-dessus. C'est que je me disais, ce qui viendra, viendra. Et puis, si ça vient pas, ça vient pas. Parce qu'autour de moi, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des difficultés à avoir des enfants.
Bien sûr, ouais.
Voilà. Et donc, c'est venu rapidement. Donc... merci, ma bonne étoile.
Super. Alors, du coup, comment s'est passée ta grossesse de Vladimir ?
Alors, les deux grossesses ont été assez proches. Des grossesses très... plutôt faciles en général. Les 3 mois conventionnels au début avec les nausées. Mm-hmm. Ça a un petit peu plus duré pour ma fille, mais vraiment rien de grave. Et puis, j'étais très épanouie pendant mes grossesses, très dynamique. Je marchais, même la veille des deux accouchements, j'étais dans Paris à marcher, à déjeuner avec mon boss aussi. Enfin, voilà, donc j'ai eu des grossesses heureuses. J'ai eu un placenta prévia pour ma deuxième. Donc, c'est-à-dire que mon placenta recouvrait le col.
D'accord.
Et donc, j'avais un risque d'être immobilisée en fin de grossesse pour rester tranquille. Et d'avoir une césarienne dans tous les cas. Parce que le placenta obstrue le col, ce qui fait que le bébé ne peut pas passer. Donc, on est obligé d'avoir une césarienne.
On ne peut pas le bouger.
Alors, il bouge tout seul.
Il bouge tout seul.
Alors, soit il bouge pas du tout. Et donc là, il y a des checks réguliers jusqu'au 15e jour avant la grossesse. Mm-hmm. Soit il bouge pas du tout et c'est césarienne, soit il bouge, ce qui a été mon cas en toute fin de grossesse. Mm-hmm. C'est un accouchement classique.
Et donc, du coup, tes accouchements se sont passés de façon assez différente, je crois.
Oui, pour le premier, j'ai eu des accouchements aussi assez faciles.
Ouais.
Le premier, 7 heures de travail, j'avais demandé la péridurale. Je me souviens, j'avais commencé commencé à avoir les contractions. J'ai fait le truc très classiquement, je comptais et j'appliquais scrupuleusement ce que la sage-femme m'avait dit. Je suis allée à la maternité, c'était Paris la nuit, en plein été, on écoutait Paolo Conte dans la voiture, il y avait la place de la Concorde illuminée, enfin c'était assez chouette. Et puis bah, mon fils est né 7 heures après, alors par voie basse. Ce qui s'est passé, c'est que la péridurale était assez forte. C'est tellement forte que je me suis endormie quand on me l'a posée. Pendant 3 heures pendant le travail, j'ai dormi.
Trop bien.
Je me suis réveillée, puis on m'a dit, bon, bah, maintenant, faut y aller. Mais sauf que je chantais plus rien. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on a dû pousser sur mon ventre pour faire sortir Vladimir. J'avoue que tout était tellement nouveau, intense, j'ai pas réalisé. Apparemment, il y a pas mal de mamans qui le vivent mal. Moi, on m'a demandé mon autorisation. Bon, moi, ça, je l'ai bien vécu parce que de toute façon, sinon, il aurait fallu trouver une autre solution plus contraignante. Ouais. Donc, l'accouchement s'est super bien passé pour lui et pour elle aussi. Alors, pour elle, ça a été hyper rock'n'roll parce que c'était le 3e jour de rentrée, première année de maternelle de mon fils, donc la grande rentrée. 3e jour, 7h40, les contractions commencent. Je dis à mon mari, mais emmène Vladimir. Il emmène Vladimir, il prend la voiture, on traverse Paris en brûlant tous les feux rouges, un peu en mode cow-boy. C'était l'heure de pointe. Et en fait, je suis arrivée à la maternité, j'ai accouché 15 minutes après.
Donc incroyable.
J'ai failli accoucher dans la voiture.
Ah ouais.
Je sentais que c'était très très fort, mais j'ai fait beaucoup de yoga, et puis je voulais pas montrer à mon mari que j'avais quand même super mal. Et donc j'ai essayé de maîtriser ça avec le souffle. J'ai écrasé ma douleur avec le souffle, et puis je suis arrivée. On a à peine garé la voiture. On l'a pas garé en fait. on nous a demandé mais qu'est-ce que vous faites. Et là j'ai dit je perds les os. Il y a une dame qui m'a mis sur une chaise roulante, on m'a mis sur la table de travail, j'ai même pas eu le temps d'être branchée sur quoi que ce soit. Il a même pas monitoring, zéro.
Ouais.
Mais non,
incroyable.
Ouais. On m'a dit 3 poussées, votre enfant est là, et je l'ai sorti.
Toi-même.
Je l'ai sorti moi-même.
Wow.
Et c'était incroyable. Donc beaucoup de chance parce que donc pas de péridurale, pas de douleur, enfin pas de si beaucoup de douleur, mais ça a pas duré longtemps. Donc
oui,
c'est un souvenir qu'on oublie en fait. Mm-hmm. Et puis, le fait de ne pas avoir eu de péridurale, comparé à la première fois, je trouve que le corps s'en remet beaucoup, beaucoup mieux.
Ah oui ?
Ah oui.
À quel niveau, tu penses ?
Alors, tout de suite. C'est-à-dire que l'après-midi, j'étais prête à aller danser. Je pouvais traverser Paris, j'étais tout de suite debout.
Ah ouais.
Et j'avais une énergie de folie. Et même après, j'ai trouvé que j'étais physiquement remise sur pied bien plus rapidement.
Okay.
Alors aussi, je n'avais pas eu des heures et des heures de
travail.
De travail. Voilà, ouais. C'est une expérience un peu particulière.
C'est génial parce que tu as vécu les deux.
J'ai vécu les deux et je sais quelle est ma préférence.
L'accouchement express sans péridurale.
Voilà, mais même sans péridurale. Mais bon, enfin, vraiment passer par le truc pour le savoir et pour connaître comment on réagit. Donc, je recommande absolument rien, en fait. Chacun fait comme il le sent.
Bien sûr, bien sûr. Donc, on va parler de tes postpartum parce que c'est là-dessus qu'on a échangé.
Tout à fait.
Je me souviens, pour quand même mettre nos auditrices au courant, on a discuté longuement quand moi-même je venais d'accoucher, toi aussi peu de temps avant, sur nos postpartum respectifs.
Oui.
Et donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de cet échange. Et donc voilà, c'est intéressant parce que toi, tu as eu des postpartum pas simples, comme ça peut arriver parfois. Et je trouve que ce qu'on se disait, c'est que c'est très intéressant de pouvoir parler de ça et échanger là-dessus. Donc raconte-nous ce qui s'est passé après la naissance de Vladimir.
Alors déjà, je vais prévenir toutes les mamans et futures mamans, c'est que mon expérience. Donc,
Bien sûr.
Est unique, on se le rappelait avant. Chacune a son expérience, donc je ne veux pas décourager certaines mamans et je voudrais remonter le moral d'autres mamans. Donc, voilà, ça dépend vraiment de chacune.
Bien sûr. En tout cas,
après des grossesses et des accouchements relativement heureux, faciles, je me suis retrouvée avec mes bébés à l'hôpital. Avec le premier, surtout complètement désemparé. Alors, moi, le postpartum, qu'est-ce que je peux vous dire en quelques mots ? Je trouve que c'est une période qui est très intense, qui est très remuante, parce qu'on met en jeu énormément de choses. On passe de l'enfant 2 à maman 2, donc
c'est vrai.
Change de statut. C'est vrai. On se pose toutes ces questions. On a un petit bébé, tout mignon soit-il, mais on se dit, bah, maintenant, c'est parti pour la vie. Il faut définir son rôle, savoir comment on va éduquer cet enfant. Voilà, enfin, il y a quand même des questions fondamentales qui s'entrechoquent. Et puis, en même temps de tout ça, il faut aussi faire face à la problématique de trouver sa place en tant que maman, en tant que femme, ouais. En tant compagne, voilà, petite sœur, grande sœur, tout ça. Donc, surtout par rapport au couple, parce qu'on n'a jamais été confronté en tant que couple au fait de devenir une famille. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment plein de choses qui s'entrechoquent. Et en même temps, on a un tout petit bébé qu'il faut s'en occuper, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à se connaître en tant que maman, voilà. Et puis, il y a plein de choses techniques au début. Donc, c'est une période vraiment, vraiment, vraiment très, très remuante, même si d'apparence, il ne se passe pas grand-chose. On reste toute la journée avec son bébé à la maison. On se dit, bon, bah, oh, elle est en congé mat, quoi. Limite, elle se repose. Et en fait, à l'intérieur, ça bouillonne et puis ça se pose beaucoup de questions.
Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, je pense, de partager, c'est que ton fils, je n'ai pas été confrontée à ce cas-là, j'en ai entendu parler un petit peu via les réseaux sociaux, et ça a l'air d'être quelque chose d'assez intense. Ton fils a eu un RGO, en fait, voilà. Un reflux gastro-œsophagien.
Exactement. Alors, avant de lui diagnostiquer le RGO, on a eu une longue période d'inconnu avec, en fait, mon fils avait des coliques. Ça a commencé à son 9e jour de vie, donc. Très tôt.
Les 9 premiers jours,
impec, rien. Bébé très, très calme. Une énergie, mais vraiment très sereine qui se dégageait de mon fils. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est un bébé très, très calme. Non, c'est plus un bébé, le lapsus, c'est un petit garçon très calme.
On veut, c'est toujours nos bébés.
Pour toujours. C'est ce que je lui dis. Et donc, 9e jour de vie, il a commencé à avoir des pleurs intenses. Mm-hmm. On n'arrivait pas à comprendre, en fait. Ça s'intensifiait, ça venait surtout en fin de journée, quand le soleil se couchait. Mm-hmm. Alors là, c'était l'apothéose, des cris, impossible de calmer son bébé. Donc déjà, on arrive de la maternité, on apprend à peine à se connaître et on a un bébé qui pleure non-stop. Mm-hmm. Donc je ne savais pas quoi faire. Je suis allée voir le pédiatre qui m'a dit, et puis la sage-femme qui m'ont dit, bah, ça doit être des coliques, c'est normal madame, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est des coliques ? On m'avait pas du tout expliqué ce que c'était. Donc j'ai fait comme toutes les mamans, je suis allée sur Doctissimo à 3h du mat, à faire toutes les pages parents.fr, toutes les pages liées aux problématiques des nourrissons. Et là, j'ai découvert un truc. En gros, bah, c'est une immaturité. Ça serait une immaturité du système digestif des bébés qui ferait que il avale de l'air, que la digestion est compliquée et donc il se tortille, ça leur fait mal.
Je précise qu'il faut savoir, parce que c'est important de savoir que ça arrive parce que ça n'a pas de lien avec l'alimentation du bébé, parce que toi, tu l'as allaité.
Exactement.
Et je pense que ça arrive à la fois des mamans allaitantes et à la fois des mamans non allaitantes.
Ça arrive à tous les bébés. À tous les bébés, il n'y a pas d'explication.
Il n'y a pas de rapport avec le type d'alimentation.
Non. Et même, j'ai failli remettre en cause mon allaitement à cause de ça. D'accord. Parce que je pensais que mon lait n'était pas bon. Donc, j'étais confrontée à un bébé qui pleurait. J'ai vécu ça comme un traumatisme. Parce que
il pleurait tout le temps, en fait ?
14 heures par jour.
Ah ouais. Parce que même lui, il devait être épuisé, non ?
Il était épuisé. Il avait des spasmes. De pleurs, il était tout rouge. On est nouveau parent, totalement impuissant par rapport aux pleurs de son enfant. On ne sait pas dans quelle mesure il a mal. Et surtout, on vous dit qu'il n'y a pas de remède.
Parce que, oui, qu'est-ce que te disaient les pédiatres ? Alors, le pédiatre,
les coliques, ouais. Le système est immature, donc il n'y a pas de remède. Il y a des petites choses. Alors, je vais vous dire, j'ai tout essayer, mais vraiment, parce que mon objectif numéro un, c'était le bien-être de mon fils, donc il fallait que je trouve la solution. Donc j'ai essayé de changer mon alimentation, je n'ai mangé que du fenouil. J'ai pris des tisanes de fenouil, enfin c'était horrible.
Hein. Pourquoi le fenouil, c'est...
Parce qu'en fait, ça enlève les gaz.
D'accord.
Mais c'était très contraignant, ça n'a pas marché, je lui ai donné de l'eau de chaud, ça n'a pas marché, l'ostéo, l'homéopathie, j'ai dû essayer une vingtaine de trucs
qui n'ont pas marché
sur Internet, qui n'ont pas marché.
Donc en fait, C'est passé tout seul, c'est ça?
Alors, déjà, on lui a diagnostiqué au bout d'un moment. Et, en fait, j'allais voir tous les mois le pédiatre, moi, un petit peu plus souvent. Et donc, il a commencé à se poser des questions. Il a dit, bon, alors le problème, c'est que votre fils n'a pas de reflux en tant que en soi, puisqu'il n'a pas du lait qui sort par jet à chaque fois qu'il a une tétée. Donc, s'il a mal comme ça, c'est qu'il doit avoir un reflux occulte, un reflux interne, c'est-à-dire que le lait ne sort pas, mais il remonte tout le long de l'œsophage, du tube, et ça lui fait atrocement
comme
mal.
Comme des remontées acides qu'on peut avoir à l'âge adulte, quoi.
Exactement. Mm. Donc, sauf que ça se voit pas. S'il pleure toujours autant, on va essayer un traitement vraiment sur ordonnance, un truc fort contre le reflux. Et là, ça s'est calmé. Et c'est là où on a pu, de manière empirique, lui diagnostiquer un RGO.
Donc ça, c'était au bout de
un mois et demi. Alors, un long mois et demi. Plein été, parce que mon fils est né le 21 juillet, donc un plein été, un Paris au mois d'août vide, où nous, on était hagards avec notre poussette à pousser notre fils à sortir sous un soleil de plomb, parce que c'est que ça qui le calmait. Voilà. Ça a été
hyper dur.
Et aujourd'hui, je ne supporte pas entendre mon fils ou ma fille pleurer, parce que ça me replonge dans cette période où ça me renvoie une image de parent impuissant. Mm. Et en fait, on lui a diagnostiqué ça, il a eu son traitement. En parallèle, un bébé qui a un RGO, il faut aussi le faire dormir dans une position qu'on appelle proclive, c'est-à-dire incliné à 30 degrés. Donc le bébé, il est sur un matelas spécifique harnaché.
D'accord.
Dans le lit.
Harnaché, attaché,
pour pas qu'il tombe. Et ça lui permet un maintien.
Ah oui. Et tu l'harnaches avec quoi?
C'est un système. C'est des petites bandes en coton avec des scratchs.
Ah oui.
On commence
à j'avais une image
ça
là.
Oui, ça fait un peu vol au-dessus d'un nid de coucou. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait. Donc, rien à voir avec l'image paisible d'un bébé qui dort dans son petit lit. Là, pas de turbulette, rien. Donc, il était harnaché. Voilà.
Il réussissait à s'endormir?
Oui,
c'est
comme un très très bon dormeur.
Tant mieux.
Donc, en fait, ça n'avait pas l'air de le déranger.
Plus que ça.
Et c'est là où on voit la force incroyable des bébés. Mmh. C'est que même quand il y a un problème, alors là, c'était pas grave, hein, c'était bénin. Il avait une faculté de dormir, de manger, de vivre malgré tout. Et ça me donnait beaucoup d'énergie et ça me donnait j'avais une énorme confiance en lui, en fait, quand je voyais sa force.
Ouais.
Donc, comme quoi, hein, dans l'épreuve,
on
apprend énormément de choses. Et, j'ai vécu comme traumatisante et surtout, on m'en avait jamais parlé avant.
Bien sûr,
jamais.
On n'entend jamais parler
ni RGO. Donc, et surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de solution à part le temps, sauf s'il y a une pathologie comme un RGO qui est détectée. Il n'y a pas de solution et ça, c'est ce qui rend le plus dingue. Donc ça a complètement gâché mes premiers mois avec mon fils, sachant que je ne connaissais même pas sa personnalité.
Et oui.
Non, parce que je l'avais entreaperçu pendant une grosse semaine et puis après c'était parti pour les pleurs. Et quand ça s'est calmé, j'ai découvert un enfant complètement serein, très observateur, très posé, et ça lui correspond toujours. Plus ou moins, parce que voilà.
Ça s'est calmé au bout de combien de temps?
Alors, ça s'est calmé à partir du moment où il a pris son traitement. À partir de 2 mois de vie, ça a commencé à se passer.
Ok.
Voilà. Okay. Et à 3 mois, c'était complètement fini parce que aussi, le système est plus mature. Voilà.
Tu l'as allaité combien de temps?
Je l'ai allaité 3 mois.
D'accord.
Donc, je me suis accrochée.
Oui.
Parce que l'allaitement aussi a été un gros challenge pour mes 2 enfants.
Mm-hmm.
Alors, Alma, ma fille, n'a pas eu de RGO, rien. Ça a été j'observais tous ces blurps et ces mouvements de ventre.
J'étais avec angoisse.
Pétrifiée et en fait, absolument rien. Donc, ouais. Merci, Alma. j'ai allaité les deux. Le premier, 3 mois. La deuxième, 2 mois. Moi, l'allaitement, je pensais que c'était un truc hyper facile. On met son bébé au sein. Puis
oui,
ça se passe
aussi,
comme,
j'avais cette image. Ouais.
Comme à la télé ou comme sur Instagram, la maman rayonnante. Avec une poitrine généreuse et son bébé qui tète et tout le monde est content. ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, ça s'est bien passé parce que mes enfants ont pris le sein rapidement. Simplement, j'avais un réflexe d'éjection fort. Donc, ça veut dire qu'en gros, le jet de lait est très, très fort et le bébé a du mal à boire. Il avait énormément d'air. Donc, ça, ça se facilitait pas non plus pour les coliques. Alors, il y a des solutions. Il suffit de changer de posture d'allaitement.
D'accord.
Mais c'est quand même très technique.
Tu prends quoi comme posture, du coup ?
En fait, on l'allonge sur soi. Il faut qu'il ait la tête au-dessus du sein.
Ok.
Comme ça, c'est lui qui
je
maîtrise.
Je vois très bien. C'est pas une position d'allaitement facile, hein,
elle
cela dit.
Elle n'est pas du tout facile, contrairement à la position où, voilà...
Plus classique.
Voilà.
On a eu une petite interruption technique. On a changé de café. Vous devez d'ailleurs entendre un petit peu, des fois, des bruits de café, mais c'est sympa. Donc, tu disais que l'allaitement, c'est finalement pas aussi simple et naturel que ce qu'on pense, et je suis assez d'accord avec ça. Il faut du temps pour le mettre en place, et quand on a un réflexe d'éjection fort,
oui.
Voilà, le bébé a parfois du mal à téter.
Voilà. Ouais. J'ai eu des mastites aussi.
Ah oui, j'en ai eu une, moi, et j'avoue, c'est...
Deux. C'est mal. Hein.
C'est extrêmement douloureux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer
en
pour
fait,
les auditrices
ce
que c'est ?
Les canaux lactifères qui sont bouchés.
Quand on a beaucoup de lait.
Exactement. Quand on a trop de lait, ça se bouche. Et en fait, ça fait extrêmement mal.
Voire, ça donne de la fièvre.
Moi, j'ai eu de la fièvre. Ouais. J'étais un peu délirante. Hein. en fait, les mêmes symptômes qu'une très grosse grippe, grosse fatigue et tout ça. Et je ne comprenais pas. Et en fait, le médecin m'a dit que j'avais simplement une mastite. Et donc, la solution, c'est de masser, de donner la tétée et puis de masser pour vraiment libérer les canaux. Parfois, et aussi de prendre des médicaments. Enfin, j'ai dû en prendre.
Ouais.
Et donc, j'ai découvert l'envers de l'allaitement. C'est hyper technique. Et pour moi, alors je parle que pour moi, hein, ça a été très fatigant. C'est-à-dire qu'au bout de six semaines d'allaitement, j'avais déjà perdu tout mon poids pris pendant la grossesse. Tellement ça m'épuisait. J'avais l'impression d'avoir couru des sprints toute la journée, je transpirais, j'avais chaud, Enfin voilà, ça m'a mis dans des états physiques secondaires. Et,
d'accord.
Ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée.
Tu penses que c'est l'allaitement qui t'a fait perdre ton poids
Alors ma mère m'avait dit que ça lui avait fait la même chose.
D'accord.
Et ma grand-mère aussi, donc j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'on se traîne. Et puis la fatigue, bien évidemment, hein, parce que ça, c'est le deuxième problème, le plus gros problème, je pense, en postpartum, c'est que on dort très peu parce que quand on allait ou pas, hein, bébé a besoin de manger la nuit, tout ça est très nouveau et puis on sait pas comment rendormir son bébé nécessairement sans que ce soit tout le temps au sein ou au biberon. Donc, il faut trouver le mode d'emploi aussi pour endormir bébé, hein, parce qu'il n'est pas livré avec.
Ça, c'est sûr, et puis ils sont tous différents. C'est pas parce qu'on l'a trouvé. C'est pas parce qu'on l'a trouvé la première fois que ça marche. Pour le deuxième, hein,
oui, c'est même très déroutant parce que même pour le deuxième, on a l'impression de savoir et en fait, on ne sait rien du tout.
Ils sont très différents.
Rien à voir.
Et puis, on oublie un peu aussi.
Ouais. On oublie parce que ce qui est chouette, c'est que un bébé, ça grandit tellement vite, ça passe par tellement de phases différentes. Et ben nous, on évolue en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'une fois, ils ont franchi un cap. Avec eux, on passe à autre chose. Voilà, une fois qu'ils sont plus allaités ou qu'ils sont et qu'ils mangent des solides, ben maintenant ça y est, on est parti dans la diversification et c'est une nouvelle aventure. Donc c'est comme si la mémoire scratchait les épisodes précédents et qu'on était parti dans autre chose. Alors c'est pour ça que il y a beaucoup de mamans et moi la première, hein, parce que je l'ai vécu surtout pour ma deuxième grossesse et mon deuxième bébé, j'avais complètement oublié ce qui s'était passé, voire je me surprenais à avoir réécrit l'histoire quand je parlais de mon enfant.
C'est marrant, ça,
Et même ma première impression quand j'ai eu mon fils, c'était mais toutes les mamans sont un peu mythomanes, hein, parce qu'elles me disent non, c'était parfait, super accouchement, machin et tout. Et pourquoi pour moi c'est aussi dur pourquoi c'est pas comme ça? En fait, j'ai compris, c'est que c'est super bien fait. On a un rapport à la mémoire qui est complètement différent à partir du moment où on a un enfant.
C'est vrai.
Et
on a tendance, et c'est ça qui est bien, de toute façon dans la vie en général, tendance à se souvenir finalement que du bon, mais c'est vrai que c'est important aussi de témoigner sur le bon et aussi pour se préparer, parce que chaque postpartum est différent, comme tu le disais au début, et parfois ça peut être plus facile que ce qu'on imagine, et parfois non, donc c'est bien d'être préparé aux deux cas.
Et puis alors, qui dit allaitement dit un moment sevrage, le sevrage est aussi une problématique en soi. parce que bah, l'allaitement, ça crée une proximité de dingue avec son petit. Hein. Moi, je faisais plus la différence entre le jour, la nuit, mes enfants, moi, tout ça ne formait plus qu'un, parce que ma fille avait besoin de manger parfois jusqu'à 15 fois par jour. Ouais. Donc elle était greffée, c'était une extension de moi-même. Moi, j'étais une extension d'elle, on ne savait plus trop. Et donc bah, voilà, c'est une séparation, c'est la première séparation à gérer avec son enfant. Mm-hmm. C'est pas facile. J'étais tellement épuisée que de toute façon, pour moi, j'allais pas l'allaiter plus longtemps que 3 mois. Et puis j'ai pas tenu, en fait, au bout de 2 mois. J'ai eu un trop-plein, une fatigue extrême. J'y arrivais plus. En fait, même allaiter devenait un déplaisir. Mm. À partir du moment où ça devient un déplaisir, on n'a plus envie, faut pas se forcer. Mais en même temps, je culpabilisais parce que ça allait à l'encontre de mes principes. Je voulais donner le meilleur à ma fille.
Oui,
ça a été très compliqué.
Okay.
Et puis, je n'y suis pas arrivée tout de suite. Mm-hmm. J'ai acheté plein de tétines différentes, des biberons, et je mettais ça sur le coup de la technique, et alors que c'était moi qui n'étais pas prête.
Ouais.
Et
c'est important de se l'avouer aussi quelque part.
Ah oui, parce que j'étais pas prête du tout. Il faut vraiment être bien aligné avec soi-même. C'est pas évident parce que c'est une période où il y a plein de choses qui se jouent. Il y a une fatigue extrême aussi parce que moi je dormais peu et le manque de sommeil est très difficile pour moi. Je suis une marmotte, hein, donc on me prive de sommeil. C'est comme si je rentrais dans une vie parallèle qui était une matrice très négative en fait, hein,
ouais.
où je vois tout en noir, je broie du noir,
ouais.
Et en même temps il y a plein de trucs qui se jouent. Donc période hyper chargée. La question du sevrage, la question de la fatigue et surtout la question de la déprime, parce que moi j'ai fait une grosse déprime en postpartum.
D'accord.
Justement parce que j'étais les 60 premiers jours après l'euphorie de la naissance, je passais ma vie en pyjama, hein, ou ma jolie robe, jolie bump, qui était mon outfit de sortie en fait. Là je commençais un peu à redevenir moi-même, donc ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai que le vêtement aide beaucoup, hein, on le dit pas.
Je suis bien d'accord avec ça, effectivement.
C'est comme ça qu'on se réapproprie son corps, qu'on redevient soi-même et que les choses se mettent aussi en perspective.
Mm-hmm.
Ça en fait partie. Et donc, j'ai eu une déprime parce que je m'étais complètement oubliée, parce que quand mon fils avait des coliques, c'était son bien-être avant tout. Moi, je passais après, alors que j'étais toujours passée en premier jusqu'à présent.
Mm-hmm.
Donc, voilà, j'ai eu une déprime avec ma fille parce que j'avais un aîné à gérer. J'avais sa jalousie, son positionnement en tant que grand frère, moi en tant que maman de 2, nous en tant que famille de 4 aussi à gérer. Donc ça n'a pas été facile. Et puis je voulais que tout se mette en place tout de suite, alors que c'est complètement idiot. Il faut du temps au temps pour que les choses se mettent en place. Il faut des semaines. Mon fils, il s'est senti grand frère et... vraiment, il a eu besoin de 3-4 mois, quoi.
Ouais, donc, je comprends.
C'est normal.
En fait, j'ai remarqué que c'est à partir du moment où le bébé commence un peu à interagir avec le grand.
Exactement.
Qu'il y a quelque chose qui se passe.
Exactement.
Et que c'est plus facile.
Parce que mon fils pensait que ma fille, en sortant du ventre de maman, allait marcher, manger,
oui,
chanter.
Voilà. Ouais.
Et c'était pas le cas. Donc, il a vu un bébé qui bougeait pas et c'était compliqué et toute l'attention était portée sur le bébé. Donc, vraiment une grosse phase de déprime. Je me suis sentie très isolée par rapport à mes questions techniques d'allaitement, par rapport au sevrage, par rapport aux coliques aussi.
Oui.
Les papas en France, ils n'ont que quelques jours de congé paternité.
Oui.
Donc, ils doivent retourner au travail. On est toute seule à la maison, en pyjama avec son bébé. Ça n'a pas été une période très heureuse pour moi parce que, en fait, j'avais perdu ma boussole, mon bon sens, mon libre arbitre. J'arrivais plus à décider de quoi que ce soit. Donc, je trouve qu'à partir du moment où on n'a plus les ressources en soi pour trouver des solutions, c'est là où il faut, c'est là où on n'a plus vraiment le choix et il faut faire appel à quelqu'un. Donc, et voir comment on peut se reconstituer soi-même. Et donc, pour ma fille, j'ai été à la PMI. Je ne savais même pas. Moi, je pensais que la PMI, c'était l'endroit où on pesait son bébé, là. Il y avait des médecins, mais pas du tout. Il y a aussi des puéricultrices. Il y a des psys aussi. Moi, j'en ai rencontré une.
D'accord.
Qui était absolument incroyable.
À la PMI.
À la
comme
PMI.
Quoi,
elle m'a complètement déculpabilisée de tout. Parce que j'avais un fardeau énorme de culpabilité. Je ne m'occupe pas assez bien de mon fils. Ma fille, c'est du déplaisir. Je ressemble à rien. Voilà. Et j'arrive à rien.
Et elle a été absolument géniale.
D'accord.
Je l'ai vue deux fois. Mm-hmm. Et elle m'a tellement aidée, mais même pour des questions pratiques. Mm. Parce que ma fille, c'est un bébé qui adore être contenu, qui adore être collé, ce qui n'est pas le cas de mon fils. Elle a vraiment besoin encore de... Pendant longtemps, elle avait besoin de retrouver cette position, là, enfin, cette sensation comme dans le ventre, d'être très proche de moi. Mm. Donc j'ai été déroutée parce que mon fils n'avait pas du tout été le cas. Et alors, elle m'a donné des tips super concrets, comme, bah, vous voyez, mettez-la dans un petit lit. Où sa tête et ses pieds sont contenus. Comme
d'accord.
Ça, elle n'est pas face à ce vide, parce qu'un nourrisson vit l'espace différemment que nous-mêmes. Après avoir été dans un ventre tout serré, ils affrontent le monde, donc il faut les aider. Et elle m'avait énormément aidée par rapport à des choses techniques et puis aussi par rapport à moi-même en tant que maman de deux. Et je ne remercierai jamais assez cette femme. Et puis, bah, la PMI, ils ont été vraiment très chouettes. Alors,
ça, c'est bon à savoir.
Je ne savais pas. Et puis aussi, pour mon fils, j'ai été en Bretagne en vacances. Mmh. On a été tous les trois en Bretagne. La distance m'a permis de prendre du recul. Et puis, pour ma fille, je suis allée rentrer chez mes parents. Et là, pareil.
Ouais.
Et en fait, il faut... Bah, là, c'est ma maman qui m'a cocoonée.
Oui, voilà. Ça, c'est l'idéal. Hein,
et
si
c'est
on peut,
l'idéal. Alors, ouais. Ça n'a pas duré longtemps. C'était juste une journée. Mais ça m'a... En fait, je me suis reconstituée comme ça. Et puis, après, j'ai réussi à sevrer à ce moment-là ma fille. Donc, mon mari a donné le biberon. J'ai pu redormir. J'ai eu plus de culpabilité grâce à la dame de la PMI. Et j'ai remonté, en fait, comme ça, un peu la pente. Et j'ai retrouvé un peu les ressources. J'ai retrouvé ma boussole, mon bon sens. Et pour écouter mon bébé, parce qu'il faut une disponibilité pour les
c'est
observer.
Vrai. Il faut une disponibilité d'esprit, c'est
voilà.
Vrai.
Il faut, je disais toujours, mais il est où le mode d'emploi pour le dodo et pour le biberon, pour le sevrage, pour l'allaitement, pour la nourriture. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, j'ai pu un petit peu prendre le temps de l'observer, avoir suffisamment de recul et puis juste l'écouter et voir ce qui était le mieux pour elle,
okay.
Être à son écoute. Et ça a marché.
Génial. Et aujourd'hui, alors, du coup, elle a 5 mois. J'ai envie de te demander comment tu te sens, comment tu vas.
Alors aujourd'hui, bah, depuis, Alma fait ses nuits. Alma se couche tout de suite à heure fixe, à 20h. Elle est couchée. On a vu, c'est son petit rythme.
Okay.
On se réveille encore la nuit. J'ai dormi 5 heures, hein, donc tout n'est pas non plus... voilà. Les choses ont pris forme. Il faut beaucoup de temps. Faut être doux avec soi-même. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'entrechoquent. Faut laisser le temps au temps. Et alors ma mère, à la sortie de la maternité, m'avait donné un super conseil.
Mm-hmm.
Elle m'a dit, je te donnerai qu'un seul conseil, écoute-toi toi-même, écoute personne d'autre. Alors j'avais trouvé ça génial, mais c'était
c'est
ça
génial
mal.
Que ta mère te donne ça comme conseil, je trouve ça chouette.
Sauf que moi j'étais très en demande de conseils à ce moment-là. J'étais mais maman, j'ai un bébé.
C'est toi qui sais.
Les services sociaux vont me le reprendre. Ils savent pas ce qu'ils font. On me confie un enfant. Je ne sais pas comment faire. Enfin, c'était horrible. Et puis alors, elle a tout à fait raison parce que effectivement, rétrospectivement, il faut s'écouter, mais il faut aussi avoir être en condition de s'écouter.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'arrive plus à s'écouter, on n'a plus ces ressources-là.
Tout à fait.
Et c'est là où faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est là où le papa peut prendre le relais. Ça fait du bien d'échanger aussi avec d'autres mamans. Donc merci les podcasts parce que ça permet justement voilà. Faut pas non plus se noyer d'informations parce que moi j'ai fait comme beaucoup de mamans désespérées, hein, regarder, aller sur Doctissimo, tous les forums qui peuvent exister sur Internet.
tout le monde dit qu'il faut pas le faire, tout le monde le fait, c'est évident.
Tout le monde le fait, puis tout le monde au bout d'un moment se dit bon voilà.
Ouais,
et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment à écouter, à trouver notre manière de faire selon la dynamique de nous quatre. À partir du moment où je regardais plus ces trucs.
Oui, bien sûr. Et justement, t'as mentionné le papa, je pense que c'est important aussi pour finir d'en parler. Comment t'as... Parce que c'est vrai qu'on on vit ce voyage un peu solitaire. Bon, après,
Surtout quand on allaite.
Voilà, surtout quand on allaite. Mais comment tu trouves ta place comment il trouve sa place, le papa?
Alors,
comment vous vous organisez? Est-ce qu'il t'a soutenu?
J'ai un mari absolument génial, si tu m'entends. il est tellement présent, il est super présent. Déjà, il travaille à la maison, donc j'ai cette chance.
Ça, c'est super.
Ouais. Il est freelance, mais bon, il travaille aussi, hein, donc il n'est, oui, il n'a, oui, pas toujours la, il peut pas s'occuper.
Non, mais voilà. Potentiellement, tu pouvais.
Il
quand
pouvait
même,
prendre le relais. Ouais, ouais. Sauf que, bah, quand on allait, ça c'était la problématique, et donc et surtout que ma fille prenait pas le biberon, donc j'avais pas vraiment le choix.
De toute façon, elle t'a pas laissé l'option.
Et en fait, à partir du moment où elle a, ben voilà, où je l'ai écoutée, je me suis écoutée, qu'elle a été sevrée. Papa a été, enfin, il a été trop content de prendre le relais, justement aussi avoir son moment avec sa fille. Mmh. Et il est tellement proche de ses petits que notre fils l'appelle Mapa.
Je trouve ça génial.
C'est trop mignon.
Ouais, c'est
Mapa.
Trop, c'est trop
mignon. Et on est interchangeables. C'est un travail d'équipe d'être parent.
Oui, c'est vrai.
Et il faut vraiment. Enfin, on a la chance d'avoir la même manière de voir les choses, d'être sur la même dynamique. Et du coup, aussi, je lui ai laissé beaucoup de place et lui m'en a laissé. On s'est laissé la place qu'il fallait. On a beaucoup parlé de tout ça et il a toujours été un soutien sans limite. Donc, super papa.
Bon, ça c'est important aussi, ouais. de la première personne à qui il faut demander de l'aide, parce que parfois les mamans, enfin c'est pas qu'on n'ose pas, mais c'est que on a envie peut-être parfois de tout gérer, etc. Mais la première personne sur laquelle il faut se reposer, c'est effectivement quand on l'a, le conjoint, et au moins commencer par cette personne pour demander de l'aide. Ouais. Et quand on dit souvent « it takes a village to raise a child », c'est vrai, mais ça commence par les parents, si on a la chance de les avoir, pas trop loin.
Exactement.
La PMI, je trouve que c'est intéressant que tu dises la que PMI. Ça t'a servi.
Ouais. Ouais.
Parce que voilà, parce que c'est quand même...
On a une chance en France, parce que ça vient de l'État. On n'est pas toujours au courant. Pour mon fils, je ne savais même pas que ça existait, hein, donc pour vous dire. Il y a aussi des conseillers en lactation. Moi, j'en ai vu une pour l'allaitement. Ça m'a beaucoup aidée.
À la PMI, tu l'as vue ?
Alors non, je l'ai vue avant la PMI.
D'accord.
Elle était estampillée Lecce League. Elle m'a donné pas mal de conseils.
OK.
Voilà, il y a les sages-femmes, bien évidemment.
Bien sûr.
Qui sont là. Il y a pas mal de gens, en fait, quand on creuse. Puis il y a les copines aussi, parce qu'on a toujours une copine qui est un peu dans sa situation, avec qui on peut partager. Le problème, c'est qu'on devient vite monosujet. Tout tourne autour du bébé. Enfin, moi, je sais que mes copines, j'avais pas envie de les bassiner avec ça.
Oui, je sais pas si c'est les meilleures personnes, vers qui se retourner, c'est vrai.
Et ma sœur, elle en pouvait plus. Elle disait, mais tu tournes en rond, là, va falloir faire autre chose. Elle disait, tu veux pas acheter un appart? Et elle m'a branché dessus, puis là, on est en train d'acheter un appartement. Donc, on vient vite, voilà, on s'épuise aussi soi-même à penser, on devient mono-obsessionnel. Mmh. Et c'est pas mal d'en parler, en fait. C'est là, c'est le moment d'en parler.
Tout à fait.
Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, alors, j'avais posté un truc, un post sur Instagram, sur mon compte, sur ce postpartum. Moi, le deuxième mois est toujours très... Enfin, le deuxième mois révolu est compliqué. J'appelais ça mes 60 rugissants. J'avais l'impression d'être malmenée dans les vagues sur mon petit radeau.
C'est mignon comme appellation.
j'ai eu 200 messages.
Ouais.
De mamans qui ont dit, bah oui, on n'en parle pas assez. C'est super que ce que tu partages, parce que je suis dans la même situation. Mmh. Je savais pas que ça pouvait être comme ça, les coliques, tout ça. Donc, il faut en parler. Il faut aussi, si on a cette chance-là. Et si, enfin, vraiment, la PMI, moi, je recommande. Alors, j'ai eu des retours différents, mais bon,
oui,
après, il y a plusieurs
PMI.
Oui,
c'est une question de personne, hein, bien sûr.
Il y a plusieurs PMI.
C'est
dans
important de savoir
mètre.
Que ça peut être... Et qu'il y a tous ces gens, des psychologues, tout. J'avais même pas, moi, qu'il y avait des gens comme ça dans la PMI, pour être honnête. Donc,
moi non plus. C'est la puéricultrice qui m'a proposé. Il faut savoir qu'autrefois, tous ces savoir-faire de maman, c'était transmis par les familles.
Oui.
Qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, il faut trouver des relais. On se retrouve vite seul. Mm-hmm. Et c'est une période où on est vulnérable et seul. Et bien heureusement, ça ne dure pas longtemps.
Oui.
Hein, et il faut rassurer les mamans,
tout
les futures
passe.
Mamans, tout passe. C'est une magnifique épreuve pour se tester soi-même aussi.
Oui.
Parce qu'un enfant, bébé comme ça, tout petit, il vous apprend qu'on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Rien n'est acquis, rien n'est linéaire. Ce qu'on pensait de sûr ne l'est pas forcément.
Mm-hmm.
Je ne sais pas, j'endors ma fille d'une telle manière, puis finalement, elle fait ses dents, elle pleure, ça ne marche plus. Faut toujours trouver des solutions, faut toujours rebondir. Faut être hyper patient. C'est difficile parce que moi, je ne suis pas patiente à la base. Donc, mes deux enfants m'ont apporté énormément de choses.
D'accord.
Et je suis tellement ravie d'être leur maman.
Mm-hmm.
Donc, c'est dur, mais c'est tellement génial en
c'est
même
un
temps.
Bon voyage.
C'est magnifique. Mmh. Et puis on apprend sur sa famille, sur soi-même, sur son couple, sur ses enfants. C'est je revivrai ça, mais s'il fallait le revivre, je le revivrai. Voilà.
C'est une belle, voilà. Une belle conclusion. merci beaucoup, Fanny.
Merci beaucoup.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. À très bientôt.